mobile, infatigable. C'était une écrivaine toujours à la recherche du mot juste.
Elle avait un visage magnifique, assez austère, assez joconde, en même temps là, en même temps pas là. Pas douce, pas sensuelle et pas délicate. C'était une femme rough, je dirais. Comme son écriture qui était rough, qui n'était pas gentle, pas... C'était pas une femme jolie, mais pour moi, c'était une femme extrêmement belle. Et cette espèce de grand visage perdu, sans doute, en même temps. Perdu. Sans doute quelque chose de, quand même, de toujours douloureux dans ce visage.
Prénom ?
Virginia.
Nom ?
Wolf.
Date de naissance ?
25 janvier 1882, dans une famille aisée, sans être riche, surtout très lettrée, une aristocratie de l'esprit.
Elle perdra sa mère à l'âge de 13 ans.
Et son père, dès 1904. S'en suivent de longues périodes de dépression, dans lesquelles les abus sexuels de ses frères ont sans doute leur part. Sa première tentative de suicide intervient en 1904.
Et elle appartient aussi à une autre famille.
Fameuse, le groupe de Bloomsbury, qui va rapprocher dans une commune liberté des artistes, des écrivains, des universitaires, comme l'économiste Keynes.
Un mariage ?
En 1911, avec Leonard Wolfe, union très libre, dans la confiance et le travail. Ils animent ensemble une maison d'édition, Hogarth Press. Lors des nombreuses crises d'hallucinations et de violences de Virginia, Leonard cherchera toujours à empêcher un internement.
Elle connaîtra la guerre ?
La guerre. Et se posera la question, les femmes peuvent-elles empêcher les hommes de faire la guerre ? Virginia a toujours été très pacifiste, mais Leonard et elle se soumettent à la nécessité de lutter contre Hitler en 39-40 et tous deux envisagent même de se suicider si les Allemands envahissent l'Angleterre. Elle se suicidera seule, au plus noir de l'année 41, le 27 mars.
Et son œuvre ?
Impressionnante, c'est une travailleuse acharnée. Hors son journal, tenu depuis l'âge de 15 ans, elle laisse du théâtre, des nouvelles, des romans. Mrs. Dalloway, en 1925, Orlando, en 1928, des essais, une chambre à soi, trois guinées. Aucun de ses livres ne ressemble à un autre, aucune de ses phrases à une autre.
France Inter, Intelligence Service, Jean Lebrun.
Sachez, Monsieur Lebrun, que tout ce que vous dites est enregistré. Pour commencer, pouvez-vous nous donner des éléments qui expliquent l'ouverture de ce dossier ? Je vous écoute.
D'abord, il y a la femme. Elle a retenu l'attention par sa façon de surmonter ses souffrances. Mais l'écrivaine fascine. La femme a fini par se noyer dans une rivière. L'œuvre de l'écrivaine miroite comme la mer. Elle est toujours en mouvement. Elle ne se fixe sur aucun genre. C'est normal, dit Virginia, les femmes sont entrées en écriture alors que les genres littéraires étaient déjà fixés, alors elles ont vocation à y ouvrir des brèches, à les déchirer. Les genres, alors on entendra ce mot dans tous ses sens. Si Virginia est l'icône de beaucoup de communautés féminines ou gays, c'est qu'elle croyait au dépassement des genres et à leur fertilisation. Comme en disait à l'époque le journal royaliste L'Action française, il la traitait d'hérésie biologique. Et en même temps, il était obligé de considérer qu'elle était un modèle littéraire, tant elle croyait à l'efficacité des mots. Alors, pour en venir à la biographie, chez les Stéphane, les parents de Virginia, il y avait des mots qu'on ne prononçait pas. Le père se tuait à la tâche en dirigeant le Dictionnaire national de biographie, qui célébrait les gloires de l'Empire dans un langage académique. Quant à la mère, elle contenait sa personnalité dans le rôle de la dame d'œuvre. Notre première interlocutrice sera Claire Davison, professeure de littérature.
Ses rapports avec sa mère sont ambivalents, sont compliqués. Elle l'adorait. C'était une femme très très forte, mais très victorienne, qui passait beaucoup de sa vie à faire des visites aux pauvres, des visites aux souffrants. Elle est quand même morte d'une grippe qu'elle aurait attrapée en rendant visite à une famille de malades. Donc, je pense que les enfants comptaient peut-être peu aussi dans la vie de cette femme très très victorienne où de toute façon l'éducation des enfants était confiée à des gouvernantes. Donc rapport aussi ambivalent. Virginia Woolf disait toujours qu'elle préférait son père à sa mère. Une mère qui lui disait toujours qu'il fallait qu'elle se tienne droite, même quand la mère agonisait. Ça fait partie des paroles quand même, des conseils qu'elle donnait à sa fille. Donc, je pense que cette époque victorienne, avec toute sa retenue, sa cruauté de la répression, on a beaucoup de mal à le cerner aujourd'hui. Mais maintenant, nous avons le grand privilège aujourd'hui de mieux comprendre le deuil, le temps qu'il faut, le besoin d'en parler quand le moment est correct, le besoin de se confier à quelqu'un d'autre, le besoin aussi de se retourner vers des professionnels pour être guidé par la psychologie. À cette époque, il fallait plutôt refouler la souffrance. Il fallait sortir le deuil par les vêtements pendant un temps très cadré, s'habiller en noir, avoir le comportement social qui s'imposait, et puis après, ne plus en parler, ne plus discuter, ne plus parler de sa souffrance. Donc c'était quand même une façon pour ces enfants qui avaient tellement souffert d'être gardés, d'être tus dans ces vêtements noirs et puis dans le silence respectueux où on se rendait au tombeau, on mettait les fleurs, mais c'était presque proscrit de parler de la personne perdue autrement que par le respect, l'hommage.
Après la mort de la mère, le père emprisonne ses filles dans une forte demande d'amour. Et la rage saisissait encore Virginia quand elle se rappelait des scènes odieuses que provoquait la remise hebdomadaire au père du livre de comptes. Elle a toujours pensé que l'indépendance financière des femmes était plus importante encore que le bulletin de vote. Néanmoins, quand le père mourut, elle s'accusa de ne pas avoir fait assez pour lui. Et son chagrin ne sera pas celui d'un deuil normal. Or, combien de deuils accumulera-t-elle ? Faut-il pour autant les laisser occuper toute l'interprétation de la personnalité de Virginia ? Et faut-il dire que pour être une artiste, il faut être une malade ?
Si beaucoup de critiques ont vu des abus peu définis de la part de ses frères, comme l'origine unique de ces crises de dépression ou de folie, si on doit l'appeler comme ça. Mais je pense qu'en creusant dans sa biographie, on va voir pendant toute sa vie une multitude de raisons. Elle a quand même perdu sa mère très tôt, elle a perdu sa sœur avec une grossesse qui se passait mal, elle a perdu un frère quand il était très jeune. C'est une enfance quand même très très douloureuse avec un père qui souffrait beaucoup de dépression. Plus tard dans sa vie, elle a vu mourir son neveu à la guerre civile en Espagne. À la fin de la vie, c'était la Deuxième Guerre mondiale qui l'a traumatisée, notamment après le bombardement de sa maison à Londres, où elle a perdu la plupart de ses manuscrits et toute la collection des livres. On a parlé de sa bibliothèque, elle a perdu la plupart de cette collection. Enfin, pendant toute la vie de cette femme, il y a des traumas impensables. Donc, elle n'en parle que très très peu. Il y a, je pense, une réticence nécessaire pour elle, pour se protéger. Et personnellement, quand je travaille sur Woolf, j'ai envie de respecter aussi cette réticence. Je pense que vraiment, il y a un degré de souffrance où on n'a pas le droit de trop creuser.
Alors, au nom de ce respect, on choisira donc de ne pas tout habiller de noir. D'ailleurs, dès la mort de son père, Virginia a la vision de son premier livre. Elle va être d'une étonnante énergie qu'elle rechargera auprès de celui qu'elle finira par épouser, qui était lui-même infatigable, Leonard Woolf, avec lequel elle animera une féconde maison d'édition Hogarth Press.
Lettre de Virginia à Léonard avant leur mariage le 1er avril 1912. Tout ce que je peux dire, c'est que malgré ces sentiments qui se succèdent toute la journée, quand je suis avec vous, il existe un sentiment permanent et croissant. Bien sûr, vous voulez savoir si ce sentiment me poussera jamais à vous épouser. Comment dire ? Je pense que oui, parce qu'il ne semble pas y avoir de raison pour le contraire. Mais je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Je me fais un peu peur. J'ai parfois l'impression que personne n'a pu, ni ne pourra jamais partager quelque chose. C'est à cause de cela que vous me trouvez semblable à une montagne ou à un rocher. Une fois encore, je veux tout. Amour, enfant, aventure, intimité, travail. Comprenez-vous quelque chose à tout ce que je raconte ? J'écris comme les pensées me viennent. Je passe donc d'un état où je suis à demi amoureuse de vous, où je veux que vous soyez toujours avec moi et que vous sachiez tout sur moi, à un extrême de hauteur farouche. Je pense que si je vous épousais, je pourrais avoir tout. Puis, est-ce le côté sexuel qui vient entre nous ? Comme je vous l'ai dit brutalement l'autre jour, je n'éprouve pour vous aucune attraction physique. Il y a des moments, comme par exemple quand vous m'avez embrassé l'autre jour, où je n'ai pas plus de sentiments qu'un rocher. Mais vous m'avez rendue très heureuse. Nous aspirons tous deux à un mariage formidablement vivant. Toujours en vie, toujours chaud, non pas mort et facile comme la plupart des mariages. Nous attendons beaucoup de la vie, non ? Peut-être l'obtiendrons-nous, ce qui serait splendide.
Et dans la lettre précédant son suicide, elle dira à son époux qu'il l'a rendue très heureuse, mais on ne va pas donc chercher non plus à explorer le labyrinthe de toutes les autres amours de Virginia. Même le moment si important partagé avec la romancière Vita Sackville-West. Notre deuxième interlocutrice sera Stella Harrison, psychanalyste de son état, mais aussi directrice d'un ouvrage collectif sur Virginia Woolf.
Pour moi, elle était au-delà ou en deçà de la question du sexe, de l'incarnation dans un corps, de la sexualité. C'est vrai que j'ai tendance à peut-être la voir comme un esprit ou alors comme un corps avec des mains, avec une tête, avec un visage de paysanne, de femme qui brode. Ce que je veux dire, c'est qu'elle ne fait pas état elle-même, il me semble, en dehors de ses envies de manger un bon dîner, un bon plat, elle ne fait pas état de douleur inhérente à son corps, à son genre, à son désir sexuel. Voilà, c'est pour ça que il me semble que elle a quand même quelque chose de très raide, oui. Un corps assez raide, un visage assez raide. D'ailleurs, Léonard lui-même, il est aussi un visage également assez raide. Enfin, il y a quelque chose d'un peu figé, il me semble.
Mais pas fatigué, il y a une énergie.
Ah, pas fatigué. Mais non, mais ça, c'est comme son écriture absolument extraordinaire, où tout le temps, ça repartait. C'est-à-dire qu'elle pouvait toucher le fond, et ça repartait. C'est comme son amour des gens. En même temps, cette question, suis-je snob, où elle pouvait être, en effet, très en rupture avec les mondanités quotidiennes, et en même temps, elle en avait besoin. Et son rapport à l'écriture est identique, c'est-à-dire que il lui fallait quand même être aimé, il lui fallait être reconnu absolument.
Monsieur Lebrun, Virginia Woolf sera un des piliers du groupe de Bloomsbury. Mais qu'est-ce qu'au juste que ce groupe légendaire ? Comment peut-on le définir ?
Bah, par ce qu'il n'est pas. Vous nous avez fait entendre Germaine Taillefer, compositrice qui appartenait à un groupe contemporain en France, le groupe des Six. Alors le groupe de Bloomsbury, c'est différent du groupe des Six. Ça a pour origine une réunion qu'animait le frère bien-aimé de Virginia, Toby, disparu prématurément en 1905. Toby qui s'adressait à ses sœurs comme à des intellectuels. Et à Bloomsbury, ainsi nommé à cause du quartier pas vraiment Rupin où ils se réunissaient, les artistes qui composaient le groupe se considéraient aussi comme des intellectuels. L'important était de cultiver une singularité, des idées politiques avancées, puis un genre de vie, un vocabulaire libre. Outre l'économiste Keynes, figurait parmi les principaux animateurs, Leighton Strachey, grand homosexuel devant l'éternel, Leonard Woolf et Clive Bell. Alors Virginia avait imaginé épouser le premier avant de se rabattre sur le second, et Vanessa, sa sœur, se maria avec le troisième, après quoi Virginia décida de le prendre dans ses rets. Je ne sais pas si vous avez compris, mais c'est ainsi qu'on vivait à Bloomsbury.
Je ne pouvais tout de même pas les laisser s'installer n'importe où. Je suis leur tante. Hyde Park, c'est une adresse. Pas Bloomsbury. Ils ont déménagé quand même. Tous les jeudis, elles recevaient chez elles des jeunes gens sortis de Cambridge. C'était très scandaleux. Ils prétendaient ne faire que discuter. Je le souhaite. De toute façon, leurs idées étaient intolérables. Détruire ce qu'ils appelaient le puritanisme victorien. Est-ce que l'on attend cela de jeunes filles de leur monde ?
On dit souvent qu'elle emploie des mots comme sexe, pédéraste et sperme.
C'était un groupe qui lisait Freud avec passion, mais aussi avec beaucoup d'humour. Parfois, ils trouvaient ça très drôle. Pour l'homosexualité, ils en parlaient à haute voix et trouvaient ça assez passionnant. Parfois, là aussi, sujet à rire si on le prenait trop au sérieux. L'amour entre femmes, qu'on ne nommait pas à l'époque, on en parlait, on en discutait. Il y a une très jolie anecdote où Vanessa demande à Virginia Woolf, alors qu'ils sont au comptoir chez le pharmacien, ce que l'on fait quand on est femme au lit avec une autre femme. Il y avait vraiment cette idée que tout était permis, tout était sujet à débat. Et si on ne savait pas, c'était sujet à expérimentation. Je pense qu'ils étaient beaucoup plus libérés que nous maintenant.
Donc on vivait à découvert à Bloomsbury, mais la vie était aussi à double fond, d'autant que les amis se partageaient entre Londres et un essaim de maisons de campagne qu'ils avaient acheté ou loué dans le Sussex. Stella Harrison.
Elle a un côté dame anglaise simple en même temps qui fait son jardinage. Elle a quelque chose, oui, de femme qui brode, de femme qui est là avec son ouvrage, son jardinage. Elle parle beaucoup de cuisine, elle parle de choses tout à fait terre-à-terre. Elle est aussi très terrienne, hein. C'est pas du tout simplement un esprit éthéré, snobinard. Elle est les deux. C'est étrange. C'est comme les enfants, son lien aux enfants. Elle dit, ah ah ah, je ne pourrai jamais posséder des biens. Est-ce que ça doit être ennuyeux, avoir des enfants? Puis en même temps, il y a des textes, des moments de son journal où, au contraire, elle parle de cette envie d'enfant. Enfin, elle est jamais là où on croit qu'elle est.
C'est la maison où on n'est pas, mais où on est en même temps.
Oui. Oui.
Comment vous les voyez, les maisons de Virginia Woolf ?
Comment je les imagine ?
Oui.
Ah, ben il y a quand même les solides bâtisses de Londres, quand même bien assises et assez austères. Et puis il y a sans doute, oui, sa maison de campagne qui est absolument magnifique, toute pleine de ronces et enchevêtrée de mille fleurs. Et là, c'est le jardin. ce jardin où elle se réfugiait, qu'elle aimait beaucoup, et puis Rodmel, donc, et puis il y a aussi la côte Brighton, la côte, les crustacés dont elle parle et dont elle se demande s'ils sont pas réels.
Ah, la vie à la campagne. Extrait du journal, nous sommes en 1921. C'est une soirée ravissante, calme, dont je n'entends pas perdre une miette. Dans la clairière, la fumée monte tout droit. Le cheval blanc et le cheval baie-cerise pâturent l'un près de l'autre. Le coq picore au milieu de ses poules dans la prairie. Léonard range les pommes au-dessus de nos têtes.
Intelligence, service. France Inter.
Monsieur Lebrun, Virginia Woolf et son mari Léonard ne comptent-ils pas parmi les travailleurs les plus acharnés du groupe de Bloomsbury ?
Oui, font un peu exception. Ne jamais quitter des yeux son travail, c'est une des maximes de Virginia, comme de Léonard d'ailleurs, Stella Harrison.
Elle n'a pas arrêté d'écrire depuis l'âge de 7 ans, enfin 6-7 ans où elle écrivait avec ses sœurs, après elle a écrit son journal d'adolescence, après elle a commencé son journal qu'elle a tenu toute sa vie, après elle a aussi écrit une pièce de théâtre, elle a écrit des essais, elle a écrit des lettres, énormément de lettres, elle a écrit des nouvelles, donc oui, c'est un ruisseau qui ne s'arrête jamais. Et elle écrivait toujours deux choses à la fois. Hein. Elle avait aussi une écriture, disons, également d'ailleurs vouée à lui rapporter de l'argent. Et puis une écriture plus qu'elle disait elle-même du côté de la poésie et pas lucrative.
Et ces genres-là, elle les entremêle. Vous racontez que dans tel texte, là où on attend des mots, on a un dessin. Oui. Dans Orlando, il y a des photos.
Oui.
Il y a des nouvelles qui sont théâtralisées. C'est entremêlé.
Oui, c'est entremêlé. En tout cas, elle a, disons, une écriture quand même maîtrisée, travaillée, et en même temps qui ne la satisfait pas et qu'elle change régulièrement. Et puis, elle a aussi, alors toujours ce journal qui est comme une espèce de baromètre stable, on pourrait dire. Et en même temps, des lettres, je pense à ses lettres à son ami Little Stretchy, où c'est extrêmement d'ailleurs osé, et très osé, très intime, alors que de l'autre côté, c'est une écriture presque académique.
L'écriture cherche son cours. À la manière des ruisseaux, la pensée cherche à faire image par les mots, et l'image du ruisseau est juste, les ruisseaux qui se perdent, qui s'arrêtent, qui se rejoignent, les temps qui s'entremêlent, les voix narratives qui s'entreparlent.
Elle est de la même étoffe que Flaubert, je pense, avec le célèbre Gueulois. Elle écrivait ses phrases, elle était amoureuse de ses phrases. Quand on regarde ses brouillons, ces archives, on voit à quel point elle retravaillait ses manuscrits 6, 7, 8 fois avant les épreuves, après les épreuves. Ça changeait tout le temps parce que le rythme de la phrase, la sonorité du mot, la résonance des mots, les échos des mots entre eux, de phrase en phrase, de chapitre en chapitre, tout cela compte de manière presque obsessionnelle. Ce n'est pas étonnant que c'est une femme qui est la fin de l'écriture de presque chaque œuvre, finie dans un état épuisé, mais vraiment à salité des semaines entières. Mais c'était un travail d'amour, de passion, mais aussi d'opiniâtreté pour trouver cette expression juste. En revanche, le rythme, ce qu'elle appelait un rythme, changeait de roman en roman. Donc même le style de chaque texte, même si bien sûr il y a une emprise, il y a une touche wolfienne, mais ce n'est pas du tout la même chose. Elle va passer de la petite phrase, le petit mot, les petits mots des amoureux, elle disait, aux grandes phrases où elle va vraiment savourer le rythme d'un seul mot. Il y a un joli enregistrement à la BBC où elle va parler justement de, du bonheur de prononcer des mots de quatre syllabes, mais elle aime bien aussi les petits mots d'une seule syllabe, et on sait bien que l'anglais est riche en ces petits mots qui créent aussi leur rythme, leur poétique.
Alors vous allez entendre un extrait de cet enregistrement. 1937, si elle est épuisée par la recherche du mot juste, c'est que les mots, ce sont les choses les plus sauvages, les plus libres, les plus irresponsables, les plus difficiles à retenir, qu'on essaye d'attraper et de trier. Dans les dictionnaires, nous disposons d'environ 500 000 de mots, tous classés, mais ils ne vivent pas dans les dictionnaires, ils vivent dans l'esprit. C'est ce qu'elle va vous dire.
Words, they are the wildest, freest, most irresponsible, most unteachable of all things. Of course, you can catch them and sort them and place them in alphabetical order in dictionaries. But words do not live in dictionaries, they live in the mind. If you want proof of this, consider how often, in moments of emotion, when we most need words, we find none. Yet there is a dictionary. There at our disposal are some 500,000 words, all in alphabetical order. But can we use them? No, because words do not live in dictionaries, they live in the mind.
Il y a quelque chose de plus direct, de plus rough, on pourrait dire.
Ça veut dire quoi, Raph?
Plus rude, plus direct, plus brut. Il n'y a pas en anglais de, il n'y a pas de, de genre. La grammaire est extrêmement riche, mais en même temps beaucoup plus précise. L'instant est plus mis en avant, je dirais, puisqu'il y a cette fameuse formule progressive en anglais.
C'est ça le thème, enfin l'écriture, elle est tissée par l'expérience de l'instant.
Oui, c'est ça qu'elle veut attraper, elle. D'ailleurs, elle parle du français aussi, de la langue française, oui. Dans une conférence. Une conférence dans laquelle elle critique le langage comme communication. Voilà, déjà, on pourrait dire que déjà, on pourrait dire avant Jacques Lacan, qui lui-même a mis l'accent sur le fait que le langage n'était pas de la pure communication, ne visait pas à la communication uniquement, mais qu'il était aussi jouissance. Elle-même a mis l'accent sur les mots, words, English words, les mots de la langue anglaise, justement, qui ne devraient pas être réduits à communiquer, à donner des modes d'emploi, à faire le guide. Et elle dit que les English words, ils sont la langue anglaise, les mots ne sont are not made to communicate. Les mots ne sont pas faits pour communiquer. Les mots sont pas faits pour se marier ensemble. Ça ne donne pas des mariages possibles. Voilà, elle a un très très beau texte. C'est une conférence où elle montre bien cette valeur des mots. Pas fait pour juste fabriquer de l'harmonie. Ils essayent de faire de la beauté, mais ils ratent.
Alors les mots, ils sont faits pour dire le fait qui existe dès lors qu'il est dit. C'est ça qui trame la jouissance, en tout cas la nécessité de l'écriture.
I am so composed that nothing is real unless I write it. Traduit en français par « et » Je suis composé de telle sorte que rien n'est réel que je ne l'écrive. Voilà. I'm so composed that nothing is real unless I write it. Il faut qu'elle couche sur le papier les choses pour que ça donne une réalité et que du coup, cette réalité lui soit plus douce.
Écrite, la réalité ne blesse pas autant.
Voilà, voilà. Ça, elle le dit. C'est ça. C'est-à-dire, I can't stop myself. Il faut absolument qu'elle continue à écrire, à put it into words, à mettre les choses en mots, pour trouver une sorte d'apaisement. Hein. Et il y a aussi cette douleur, en effet, du deuil de sa mère, où elle dit bien que elle a souffert extrêmement longtemps de la voix de sa mère. Et elle dit bien que c'est dans la promenade au phare qu'elle a réussi quand même à apaiser ça.
C'est-à-dire que dans la promenade au phare, elle réussit à poser un peu le bagage. Une fois que c'est écrit.
C'est ça. Une fois que c'est écrit, ça l'a apaisée et elle a dit que la voix de sa mère ne la tourmentait plus après avoir écrit La promenade au phare.
Bon, vous n'êtes pas très éloigné des enseignements de Lacan qui parlait de ce qui se fait et de ce qui se dit aussi.
Oui, oui, un fait n'existe que d'être dit, c'est ça. Ça, Lacan disait ça, un fait n'existe que d'être dit. Et elle dit, d'une certaine façon, elle dit, un fait n'existe que d'être écrit.
Nous approchons des années 1930, où l'ombre bienfaisante d'Estelle Smith, dont on entend une œuvre, c'est une grande compositrice de l'époque, s'est déployée au-dessus de Virginia Woolf.
Inter. Intelligence, service.
Dès 1928, paraît le premier essai qu'on dit féministe de Virginia Woolf. C'est une chambre à soi. On se souvient qu'elle est restée blessée par les reproches que son père faisait à ses filles, les accusant de dépenser à mauvais escient. Il se trouve que Léonard tenait aussi les cordons de la bourse assez serrés et obligé de compter les shillings, Virginia n'en ressentait que plus vivement les plaisirs qu'il pouvait procurer. Dans une chambre à soi, elle raconte l'expérience heureuse que fut l'héritage qu'elle reçut d'une tante. Ah, une chambre à soi et une petite rente. Mais le livre, c'est aussi le récit fort drôle d'une enquête. La narratrice, avec son petit carnet à la main, s'en va dans les bibliothèques rechercher les livres consacrés aux femmes. Il est quand même étrange qu'ils soient aussi nombreux et par qui sont-ils écrits ?
Avez-vous une idée du nombre de livres consacrés aux femmes au cours d'une année ? Avez-vous une idée du nombre de ces livres qui sont écrits par des hommes ? Savez-vous que de tous les animaux de la création, vous êtes peut-être celui dont on discute le plus ? Mon esprit s'aventura à imaginer la vie des hommes qui passent leur temps à écrire des livres sur les femmes. Ces hommes, sont-ils vieux ou jeunes ? Mariés ou célibataires ? Ont-ils le nez rouge ou sont-ils bossus ? En tout cas, il est vaguement flatteur de se sentir l'objet d'une telle attention, si elle ne provient pas uniquement des estropiés et des infirmes.
Alors la narratrice note, voilà, elle voit sur les rayons, l'opinion de M. Oscar Browning sur les femmes, l'opinion du Dr. Johnson sur les femmes. Voyons, se dit-elle, l'opinion de La Bruyère.
La Bruyère, qui dit « Les femmes sont extrêmes, elles sont meilleures ou pires que les hommes. » Opinion contradictoire émise par de sagaces observateurs qui furent contemporains. Les femmes sont-elles capables ou non de s'instruire ?
Alors nous sommes toujours dans une chambre à soi au moment où la narratrice entend la lecture qui surprend du premier livre d'une jeune écrivaine.
Elle est en train de s'imaginer lire un nouveau roman d'une nouvelle écrivaine peu connue. Et elle commence à lire la phrase et elle trouve la phrase un peu mal écrite. Elle bute un peu sur les mots. Elle estime que les phrases ne roulent pas dans la bouche, elles ne sont pas élégantes. Elle se demande même si elle écrit avec un stylo ou avec un pic. Donc elle lit à haute voix quelques-unes de ses phrases. Et elle se dit effectivement que ces phrases ne coulent pas de source. Elles ne sont pas veloutées, elles ne sont pas belles, elles ne rassurent pas. Et elle se dit, mais pourquoi n'es-tu pas Jane Austen? Pourquoi ne peux-tu pas écrire avec la beauté de Jane Austen? Mais après, elle va répondre à sa propre question en disant, oui, mais la femme d'aujourd'hui vient à peine d'accéder à la vie professionnelle. Elle ne veut pas continuer comme une femme du passé. Ce n'est pas une femme du salon. Elle n'écrit pas pour flatter son lecteur. Elle n'est pas héritière d'une tradition littéraire. C'est une pionnière qui a besoin de son pic et de son stylo. C'est une femme qui doit se frayer un chemin dans un monde littéraire non seulement consacré, mais le monde d'aujourd'hui. Et donc c'est un passage clé, d'après moi, où elle va montrer toute la différence entre être une romancière traditionnelle et être une romancière moderniste. Parce qu'il va falloir justement casser les facilités, casser l'élégance des phrases un peu trop agréables, un peu trop rassurantes ou poétiques. Parce que la vraie écriture brûle, elle fait mal, elle écorche la langue et c'est comme ça qu'elle va aussi créer du nouveau. C'est ça, rough, c'est-à-dire que ça, c'est rugueux, il y a des phrases d'une élégance remarquable. Et puis elle va rapper dans la phrase, il faut que ça rappe. Si l'oreille s'endort, si on est trop amoureux de sa propre poéticité, on ne dit rien de nouveau, on ne va sortir que des phrases convenues. On le voit très bien quand elle dit « something tore, something scratched ». Ce sont des mots moches. Mais justement, c'est à ce moment-là qu'elle se rend compte qu'il y a du nouveau et qu'elle est en train de penser, de sentir dans son corps d'autres réactions que les ronronnements d'une lectrice qui s'endort un peu avec son roman.
Eh oui, il y a une espèce nouvelle qui naît. C'est ce que dit le journal monarchiste L'Action française quand il rend compte d'une chambre à soi. Le lion britannique a donné naissance à la chatte suffragiste. Eh ben, c'est très dangereux, ajoute le quotidien. Il y a là-dedans trop d'androgynie. Il ne faudrait pas que l'homme du XXe siècle devienne une femme. Les années 30 vont commencer, qui seront celles de la réaction.
Monsieur Lebrun, Virginia Woolf a toujours été profondément pacifiste, comme le groupe de Bloomsbury. Néanmoins, une nouvelle guerre se profile avec la montée des fascismes.
Même en Angleterre, la geste churchillienne a fait oublier ce qui fut en réalité. Inquiète, Virginia Woolf pense à composer un immense guerre et paix. Et elle en extrait plusieurs textes, dont un autre essai féministe, Trois Guinées. Une question y revient sans cesse. Les femmes peuvent-elles empêcher les hommes de faire la guerre? Et d'autres annexes. Quels sont les méfaits d'une éducation seulement masculine? De petits fascistes, est-ce qu'elle ne fait pas de grands fascistes? Alors à Bloomsbury, on a, vous l'avez dit, été toujours pacifiste. Souvent, les textes de Virginia Woolf font entendre d'ailleurs les contre-coups de la Grande Guerre bien des années après qu'elle a fini. Et voilà qu'elle va recommencer. Cependant, ce n'est pas la même. Celle-ci a pour but de se défendre de Hitler. Et Léonard et Virginia Woolf consentent à la livrer, sans emboucher les trompettes du patriotisme. Il ne quitte pas l'Angleterre, il reste pendant le Blitz, quitte à se replier dans leur maison du Sussex.
Il y a un très très joli essai écrit à la fin de sa vie, en 41, qui s'appelle « Pensée pendant un raid aérien ». Elle se raconte au lit, dans le Sussex, donc très très près de la Manche. Elle entend passer les avions et elle raconte le bruit que font les avions. Et nous savons maintenant que, bien sûr, on écoutait le bruit, puisque selon le moteur, on savait s'il allait lâcher ses bombes ou pas. Et s'il fallait en compter jusqu'à 10 pour savoir si on allait encore survivre. Et elle se pose la question, mais est-ce que c'est un jeune Allemand, là, qui risque sa vie pour traverser la Manche et venait larguer ses bombes sur nous? Mais que pense ce pauvre petit Allemand dans le ciel? Après, elle pense aux aviateurs britanniques et leur courage. Donc, je trouve remarquable d'être au lit, en train d'écouter les avions et encore être capable de penser à la souffrance de ce pauvre pilote, jeune homme, quelle que soit sa nationalité. C'était une internationaliste, finalement, qui ne voulait pas que les gens se déchirent. Mais jamais il y a un élan de patriotisme, sauf dans ce courage de tous les jours, de continuer, d'avoir faim, de faire la queue pour la nourriture, de chercher ce livre parmi les ruines des maisons bombardées. Mais même pendant tout ça, il n'y a jamais de haine exprimée, seulement de désolation.
Une courte nouvelle montre un couple qui gravit une montagne et elle pressent qu'il va dévisser. À cet instant, son stylo se met à fuir. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le raconte, le stylo qui fuit. Il n'y a pas d'écriture sans récit d'une expérience. Et celle-ci sonne comme une bien étrange coïncidence. Une autre nouvelle se passe à Brighton. Le 8 mars 1941, elle accompagne Léonard qui y donne une conférence dans la station balnéaire. Il fait beau, dans un salon de thé, des dames fardées, enchapotées, bavardes. Mais l'Angleterre n'a jamais été aussi seule. Hitler n'a pas encore étendu la guerre en URSS, on ne voit pas d'espoir.
Elle et son mari, Leonard Woolf, étaient à l'index pour les nazis. Donc, ils faisaient partie de leur liste noire, donc des personnes à exterminer en arrivant en Grande-Bretagne. Les Woolf vivaient à Sussex, donc à 15 kilomètres des plages où on pensait que le débarquement des Allemands aurait lieu. Ils ont donc demandé de la cyanure auprès du frère médecin de Woolf afin qu'ils puissent se tuer tous les deux plutôt que d'être pris prisonniers. Ils avaient également de l'essence dans le garage afin qu'ils puissent se suicider ensemble si nécessaire. Donc là, je pense qu'on se trouve justement à ce croisement d'une fragilité psychologique d'une femme de 59 ans quand même. On oublie quand on pense à cette Virginia Woolf souffrante, on l'imagine jeune, romantique, mais c'est quand même une femme de 59 ans qui va se suicider, mais à la fois tiraillée par une crainte d'un retour de sa maladie mentale, mais aussi par l'esprit hanté par ces avions qui passent, par la peur d'être pris prisonnière, éventuellement torturée, bien entendu, par les nazis, ouais, qui avait peur aussi d'être séparée de son mari, donc juif, dans des conditions impensables. Donc c'était un acte d'une complexité, ce suicide, qui dépasse là aussi l'entendement. Ce qui est peut-être encore plus bouleversant là-dedans, c'est que quand on l'a trouvée, Leonard Woolf a reçu beaucoup de lettres de haine de la part de Britanniques, de bons paroissiens, qui accusait sa femme de lâcheté et d'avoir lâché son pays à son moment de souffrance. Donc là, on a du mal à imaginer l'émotion de ce mari qui a perdu sa femme et qui après, qui est obligé de recevoir la haine de ses compatriotes. Il faut dire que c'est 41, l'Angleterre se voyait vaincue.
Donc, oui, bien tout était
sûr,
noir.
Le suicide d'une femme intellectuelle très prominente, il fallait pas ça. Et puis, on en parle puisque les journaux, malheureusement, se sont saisis de l'histoire. Donc, ça sert aussi à créer de l'événement presque. Bon, je ne veux pas non plus être trop critique envers un pays qui souffrait beaucoup à l'époque, mais est-ce que ce n'était pas aussi un élan pour susciter du patriotisme, du courage chez ces Britanniques épuisés, très divisés quand même, en créant une tête de Turc, un bouc émissaire, bon, mais Wolfe et son mari ont pu servir ça pendant quelques semaines.
Comment en mars 1941 périr comme elle l'aurait voulu, toute voile déployée?
Et puis cette phrase, donc la dernière du journal, elle avec un point, c'est là que je dis qu'il y a quelque chose de rough, de simple dans son journal, c'est pas Léonard, c'est elle avec un point, is doing the rhododendrons, et puis là on a trois petits points, elle est en train de tailler les rhododendrons, voilà. Oui, je disais que l'anglais était plus rough, parce que c'est pas il taille, c'est is doing, c'est quand même marrant, c'est combien l'anglais est simple, voilà. Son point, is doing the rhododendrons, trois petits points, voilà.
Remerciements à Stella Harrison, qui a publié un livre collectif aux éditions Michel sur Virginia Woolf, à Claire Davison. Les lectures, Caroline Mounier, la prise de son, Arthur Gerbeau, et à la maison de la radio et de la musique, Elisabeth Collet. Les agents d'intelligence service, Aurore Juvenel, Frédéric Martin, Franck Olivard, et la réalisation, Audrey Ripouille.